Quatrième volet de notre semaine consacrée à l'histoire de la santé publique. Aujourd'hui, santé publique, grossesse, maternité et accouchement au 18e, 19e siècle. Pour ce dernier volet de notre semaine consacrée à la santé publique, nous nous arrêtons sur la relation de celle-ci avec la maternité au XVIIIe et XIXe siècle. Pourquoi ces deux siècles marquent-ils une rupture avec les conceptions plus anciennes de la maternité? Comment l'État s'est-il ajouté à l'Église dans le suivi des grossesses? Comment une nouvelle profession, celle de sage-femme, a-t-elle pris la place des matrones et des femmes qui aident? Pourquoi le taux de mortalité des mères et des enfants lors des accouchements a-t-il baissé aussi fortement? C'est ce que nous verrons avec Séverine Yattard qui a préparé cette émission avec nous, avec nos trois invités, Marie-France Morel, elle est maître de conférences émérite à l'École normale supérieure et présidente de la Société d'histoire de la naissance. Vous avez dirigé Accueillir le nouveau-né d'hier aujourd'hui, publié chez RS il y a 2 ans. Emmanuelle Berthiaud est avec nous. Elle est historienne de la grossesse et votre thèse portait sur le vécu et la représentation de la grossesse au 18e et 19e siècle. Et vous avez publié à La Martinière en 2013, Enceinte, une histoire de la grossesse entre art et société. Et vous publiez bientôt avec Scarlett Beauvallet qui a dirigé votre thèse, Le rose et le bleu, c'est chez Belin. Nathalie Sage-Pranchère est également avec nous. Vous êtes chartiste, vous êtes historienne des sages-femmes et vous publiez à l'automne prochain aux presses universitaires François Rabelais, L'école des sages-femmes. Bonjour Séverine Yattard, bonjour à vous Marie-France Morel et merci d'être avec nous.
Bonjour
à vous Nathalie Sage-Pranchère.
Bonjour.
Et bonjour à vous Emmanuelle Berthiaud.
Bonjour.
On va peut-être très naturellement commencer par vous parce que avant la naissance, avant l'accouchement, il y a la conception et il y a la grossesse. Et vous êtes donc historienne de ce vécu et de cette représentation de la grossesse au 18e, 19e siècle. C'est une période importante, ce 18e siècle, justement, pour pouvoir comprendre des chamboulements, des transformations dans ce domaine, justement, de la grossesse.
Oui, tout à fait, puisque le 18e siècle est une période importante de transition. On voit les médecins, effectivement, commencer à s'intéresser davantage à cet état très particulier. C'est une époque aussi où la fécondité commence à diminuer et où les représentations concernant la famille, la place de la femme également dans la société, dans la famille, se transforment. Et donc, il me semblait que c'était intéressant de voir comment le vécu et les représentations de la grossesse évoluent à ce moment-là.
C'est vrai. Toutefois, Emmanuelle Berthiaud, Marie-France Morel, alors, les femmes, de manière courante, sont quand même enceintes de 5 à 10 fois.
Fin 18e siècle, on a une moyenne qui voilà, a 4 à 5 enfants par femme en moyenne à la fin du 18e. On descend déjà à 3 enfants par femme en moyenne au 19e siècle.
4 à 5 enfants par femme, ça ne veut pas dire 4 à 5 grossesses, parce qu'effectivement, il y a les grossesses non advenues au bout
oui,
du
tout
compte.
À fait, qu'on a du mal à évaluer, mais il est clair qu'il y a facilement 2 à 3 fausses couches ou accouchements prématurés ou, voilà, qui font que ce ne sont pas tous effectivement des enfants vivants.
Et selon les milieux, on peut les déterminer ou pas?
Non. C'est difficile, on a du mal à affiner ça par...
Marie-France Morel, ce 18e siècle est important véritablement pour cette question qui nous intéresse aujourd'hui?
Oui, en fait, depuis le 16e siècle, on a quand même des ouvrages qui traitent de la grossesse et de l'accouchement, enfin surtout de l'accouchement. Et au 18e siècle, ce qui me semble nouveau, c'est que l'État s'intéresse à la santé des mères. Et donc va mettre en place une politique à partir du contrôle général et des intendances pour améliorer la maternité, l'accouchement dans les provinces.
Et ça, c'est à partir de quelle époque, au XVIIIe siècle, à peu près, au milieu du XVIIIe?
Oui, milieu du XVIIIe, oui. Oui.
Il faut citer peut-être le nom de Madame de Coudray, même s'il ne faut pas lui attribuer toutes les vertus dans ce domaine. Qui est-elle et pourquoi est-ce que son ouvrage, publié dans les années 1750, est si important?
Je dirais que c'est une femme de communication, Madame de Coudray. Alors, c'est une très bonne sage-femme. Elle a été formée à la seule école qui forme des sages-femmes d'une manière clinique, qui est l'école de l'Hôtel-Dieu. C'est-à-dire qu'elle a suivi un apprentissage pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années. Donc, elle a un diplôme, elle a passé un examen, donc elle est reconnue. Et elle a eu la présence d'esprit d'aller proposer des cours itinérants au contrôle général, c'est-à-dire au ministère des Finances de l'époque, pour enseigner l'art des accouchements. Et elle l'a fait à l'aide d'une méthode qu'on pourrait dire un peu audiovisuelle, mais pas seulement, qui est aussi pratique, puisque parallèlement à des cours oraux, elle va développer des travaux pratiques sur une machine à démontrer l'art des accouchements, qui est un bassin de femmes dans lequel on peut placer plusieurs...
On en a encore conservé.
Oui, il y en a un au musée d'histoire de la médecine de Rouen, oui, au musée Flaubert d'histoire de la médecine.
Et donc cette machine, ça ressemble, c'est du tissu,
Alors au départ, c'est un vrai bassin de femmes, c'est ce qu'on a découvert récemment quand elle a été restaurée, c'est tout à fait passionnant, et elle est recouverte de tissus. Et de peau, c'est assez analogue à ces mannequins qu'on a encore aujourd'hui, mais qui sont en plastique ou en caoutchouc. Hein.
Et d'ailleurs, elle n'est pas la position du fœtus, qui explique la position du bébé dans le.
Oui, c'est ça. On a des fœtus de différentes tailles, on a des jumeaux aussi, et puis il y a un placenta, et il y a surtout des fils de couleur bleue et rouge pour bien distinguer les deux types de circulation. La circulation veineuse, la circulation artérielle, c'est tout à fait intéressant. Mais elle n'est pas l'inventeur de cette machine. Il en existait déjà en Allemagne, notamment à Göttingen, au XVIIIe siècle.
Alors, sur cette question, Nathalie Sasse-Pancher, vous qui avez travaillé sur cette histoire des sages-femmes, c'est important d'avoir le nom de Madame du Coudray, mais de la mettre dans ce contexte du XVIIIe siècle qui, d'une certaine façon, est l'émergence d'un nouveau métier, pourrait-on dire, une nouvelle présence des femmes nouvellement acceptées par l'État, par la médecine, etc., auprès des parturientes en particulier.
Madame du Coudray, en fait, elle donne le coup d'envoi d'une formation extrêmement large. On considère qu'elle a dû former autour de 5000 sages-femmes.
Quand
on dit former, ça allait de cours qui duraient une quinzaine de jours à deux mois. Donc c'était quand même assez aléatoire et les résultats pouvaient être plus ou moins efficaces. Toutefois, ce qui est frappant, c'est qu'elle, finalement, elle s'inscrit dans un mouvement d'intérêt, comme on l'a dit, pour la santé des mères, pour la santé des enfants. Et à partir de là, elle va finalement être... l'élément émergé d'une politique que l'État met progressivement en place de création d'un agent de santé publique qui est la sage-femme. Jusqu'à présent, bien sûr qu'il y avait des sages-femmes. Certaines étaient au service de municipalités. On en a dans beaucoup de villes allemandes, on en a en France aussi. Mais à partir de ce moment-là, on va véritablement intégrer les sages-femmes dans le personnel médical. Il y a d'ailleurs en 1786 une enquête qui les comptabilise et qui va spécifiquement comptabiliser les sages-femmes formées. Et progressivement, on va décider de les former de manière plus systématique, ce qui fait que, certes, Madame du Coudray passe pour 15 jours, 3 semaines, 1 mois, mais derrière elle, on met en place des cours qui, eux, vont perdurer et qui, en général, sont souvent tenus par des chirurgiens qui ont été les élèves de Madame du Coudray.
Oui, parce que justement, Nathalie Sage-Pincher, il faut préciser que peut-être juste avant, les hommes, les médecins, les chirurgiens commencent aussi à s'intéresser à l'obstétrique, qui n'était pas forcément quelque chose qui les intéressait auparavant. Provoquer des problèmes, c'est que les femmes sont habituées à être accouchées par d'autres femmes. Alors il y a l'intrusion d'un homme pendant la scène de l'accouchement, hein, puisqu'on peut peut-être la décrire, c'est généralement une vraie scène, où une femme, plusieurs femmes sont présentes autour de la parturiente, en fait, finalement.
Alors ce contexte, effectivement, de l'accouchement est un contexte essentiellement féminin. Il va y avoir les femmes de la famille, des voisines, pas forcément n'importe qui, des gens en qui on a confiance, qu'on laisse rentrer dans la chambre de la parturiente, la sage-femme, ou du moins la personne qui va venir accoucher, parce qu'elle a une expérience, qu'elle a eu elle-même beaucoup d'enfants, qu'on lui a fait appel régulièrement. Et c'est vrai que ce contexte essentiellement féminin va perdurer de toute façon jusque très très tard dans le 19e siècle, voire jusqu'au début du 20e siècle. Au-delà, le tournant de la fin du 17e et du 18e siècle, c'est l'idée qu'on fasse désormais appel à un homme de l'art, un chirurgien, pour les cas où ça se déroule mal. Mmh. Et c'est cette différenciation entre l'accouchement qui tourne mal et l'accouchement traditionnel, qui chacun appelle un acteur différent, qui va être véritablement l'enjeu de l'entrée des chirurgiens dans le champ de la naissance.
Oui, je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut faire intervenir aussi la densité des chirurgiens et des sages-femmes, suivant l'endroit où on habite. Et il y a quand même quelque chose, il y a la pratique de Moquet de la Motte, qui est un médecin de Valognes, donc dans le Cotentin, au début du XVIIe siècle. Le livre a été réédité, commenté par Jacques Gélis, accoucheur de campagne sous le Roi Soleil. Il est accoucheur de campagne. Et au début du XVIIIe siècle déjà, il accouche tous les milieux sociaux.
Oui, et il faut dire effectivement que c'est une des découvertes récentes, pourrait-on dire, des travaux sur cette question. Il faut nuancer selon que l'on est en ville, selon qu'on est à la campagne, selon qu'on est dans une campagne très éloignée, effectivement, oui. La présence ou pas de ces personnels, soit médicaux, soit accoucheurs spécialisés, parce que quelquefois on ne peut pas faire autrement. Et il y a effectivement ces matrones auxquelles on va faire un peu la guerre à partir de la fin du XVIIIe siècle. On va essayer de les écarter, même si elles resteront très présentes au XIXe siècle. On va essayer de les écarter au profit justement de ces femmes nouvellement formées ou de ces médecins, ces matrones qui sont traditionnellement celles qui aident à l'accouchement dans les campagnes, en particulier Nathalie Sage-Pencher.
Alors ces figures de matrones, effectivement, on les voit paradoxalement apparaître énormément dans les discours au XVIIIe siècle parce qu'on se met à les dénoncer. On a l'impression que la population baisse, ce qui est faux. Concrètement, la population française augmente à cette date-là.
Il n'y a pas encore des statistiques très
voilà, établies. On commence à faire des calculs, mais on ne sait pas exactement comment aboutir au bon résultat. Donc la population, on souhaite l'avoir augmentée. Et finalement, il faut trouver un bouc émissaire. Le plus simple, c'est la matrone. Et dans la mesure où on a dans le même temps des chirurgiens qui expliquent qu'il meurt entre 20 et 30 000 enfants dans certaines régions tous les ans, on se dit qu'il y a un déficit considérable de naissances à cause des matrones. Et on voit émerger cette figure de la matrone qui serait un monstre, qui tuerait les mères et les enfants à chaque accouchement.
Et justement, ces mères qui vont accoucher, peut-être Emmanuel Berthiaud, alors comment elles appréhendent l'accouchement?
A priori, on perçoit que la grossesse, c'est pas du tout un moment positif en soi, qui est un moment d'inquiétude, un moment vécu comme sous l'angle de la maladie et de la peur. Et on voit dans les écrits privés en particulier sur lesquels j'ai travaillé, cette récurrence de l'angoisse de l'accouchement, c'est vraiment vu comme le moment fatal, critique. On sent vraiment une angoisse parce qu'on ne sait jamais finalement jusqu'au bout comment les choses vont se dérouler. La femme ne sait pas non plus finalement de quoi elle est vraiment enceinte.
On ne connaît pas très bien son corps à ce moment-là.
On ne connaît pas très bien son corps. On n'a pas de système comme l'échographie ou autre qui permettent de savoir si on est enceinte d'un ou deux enfants, si l'enfant va être bien conformé. Et puis effectivement, si le moment venu, on pourra être aidé comme il le faut. Donc ça reste un moment effectivement très angoissant.
Alors vous avez travaillé pour votre thèse, Emmanuel Berthiaud, justement sur les écrits du fort privé qui permettent de dire autre chose que les écrits médicaux, que les écrits étatiques ou administratifs. Et ces écrits du fort privé vous permettent par exemple de définir que contrairement à ce qu'on dit ou ce qu'on croyait, la femme sait assez précocement qu'elle est enceinte, elle surveille de façon très précise son cycle et qu'au bout du compte, elle est déjà au bout du troisième mois, elle sait ce qui lui arrive. Et c'est souvent le cas, alors qu'on a dit que effectivement les femmes étaient tardivement conscientes de ce qui leur arrivait et de cette grossesse. Vous dites que non, quand on écrit, quand on regarde les correspondances, quand on regarde
mais
les
mari,
écrits,
elles en parlent à leur mari,
etc. Ouais. Elles disent tout cela.
Alors il est vrai que effectivement, moi, dans les travaux sur lesquels les documents sur lesquels j'ai travaillé, j'ai été très surprise de voir effectivement l'attention des femmes effectivement pour leurs règles, le fait qu'elles savent exactement quand ça doit leur arriver, et parfois donc l'entourage et le mari lui-même le sait aussi, mais il s'agit de milieux très particuliers là aussi, c'est-à-dire de femmes des élites dont les enfants, quand elles en ont, sont placés souvent en nourrice ou autre, donc en gros n'allaitent pas leurs enfants, donc en gros il n'y a pas cette suspension des règles qui peut arriver liée à l'allaitement. Donc je pense que dans les milieux populaires, les femmes peut-être avaient plus de difficultés parfois à cerner à diagnostiquer la grossesse. En tout cas effectivement on arrive à parfois 2-3 mois de grossesse, à avoir déjà une quasi-certitude.
Et quand on n'est pas sûr soi-même d'être enceinte, l'entourage le sait parfois, et en particulier au lavoir, les lavandières s'aperçoivent qu'effectivement les linges ne sont plus exactement les mêmes, et qu'à partir de ce moment-là, on peut soupçonner que la personne qui vous confie son linge, eh bien, elle est peut-être enceinte, justement.
Oui, le signe des règles ou de l'arrêt des règles est vraiment quelque chose d'assez essentiel à ce moment-là, et il y a un contrôle social autour de ça. Donc effectivement, les lavandières ont cette place de vérifier si une veuve ou une jeune fille qui n'est pas mariée et a bien régulièrement ses règles. Donc ça, c'est voilà.
Et vous insistez, Emmanuel Berthiaud, dans votre travail de thèse, vous insistez sur le fait que, certes, c'est une période de peur, mais c'est aussi une période d'espoir. Et c'est assez étrange ce que vous dites, parce qu'en fait, on sent les femmes prises entre dans une contradiction profonde. C'est l'espoir de devenir mère, c'est important pour socialement exister auprès dans sa famille, etc. Mais en même temps, ce devenir mère est un risque énorme, la mort en couche en particulier, et que les deux cheminent ensemble dans l'esprit de la future mère.
Je crois que c'est assez caractéristique. La grossesse est vraiment un état d'entre-deux, quelque chose qui est important. On n'a pas de statut de place vraiment dans la société si on n'est pas mère, et la grossesse et l'accouchement sont une forme de rite de passage qui donne une existence sociale et une reconnaissance. Et puis, c'est vrai que voilà, dans une société très chrétienne aussi, enfin, voilà, la maternité, c'est vraiment quelque chose d'important.
C'est valorisé.
C'est valorisé. Hein. Mais donc la stérilité est vraiment vécue comme un fléau et voilà, quelque chose que les femmes, on considère que les femmes en sont responsables. Mais par ailleurs, voilà, pour être mère, il faut en passer par cette expérience douloureuse et difficile que sont la grossesse et l'accouchement. Donc on voit les femmes prises entre ces deux types de, voilà, de vécu et d'émotions.
Séverine. Alors ces mères qui accouchent, ces parturientes, alors de quoi elles risquent de mourir de manière plus courante peut-être? Alors Marie-France Morel, mauvais placement de l'enfant, infection oui, alors, de
le
tout
le premier
genre.
Risque, c'est le risque de la position de l'enfant. Effectivement, il y a des naissances qui sont quasiment impossibles avant l'âge de la césarienne, qui n'est vraiment quelque chose de possible pour la santé de la mère qu'à la fin du 19e siècle. Alors, les césariennes, elles existent dès le 16e siècle, mais sur femmes vivantes, il y en a quelques exemples. Mais on ne sait pas suturer l'utérus, enfin bon, il y a des choses quand même incroyables. Alors, quelquefois, la femme survit, mais on se demande dans quelles conditions.
Par quel miracle.
Oui, et donc, ces cas-là...
D'ailleurs, la mère a priorité sur l'enfant.
Oui, il faut aussi oui, oui. Ah, oui. Sauver la mère ou l'enfant, c'est toujours, effectivement, le dilemme se résout toujours par le sauvetage de la mère.
Hein. Mais par contre, si la mère meurt, on essaye d'extraire l'enfant pour pouvoir aussi
Le baptiser. Pour le baptiser, oui. On a la croyance qu'il y a un petit répit entre le moment où la mère meurt et le moment où le fœtus va mourir. Et donc, on se dépêche d'ouvrir le corps de la femme qui vient d'expirer pour baptiser l'enfant.
Et alors, il y a effectivement ces questions de positionnement difficile de l'enfant, mais il y a aussi les fièvres qui peuvent gagner.
Oui,
en particulier la fièvre puerpérale qui est importante et qui fait craindre effectivement ce moment-là, parce que vous expliquez, Marie-France Morel, que dans certains proverbes alsaciens, eh bien, on dit qu'il faut attendre 9 jours pour être sûr qu'une fois qu'on a accouché, on ne va pas mourir.
Le ciel reste ouvert 9 jours pour la femme enceinte. Ça veut dire qu'effectivement, elle risque de mourir.
Évidemment, on n'a pas à l'époque d'antibiotiques, on ne sait pas très bien comment soigner ces choses-là. Et effectivement, c'est un des risques, c'est le risque post-opératoire pour être, ou post-naissance.
On les appelle les fièvres de lait, d'ailleurs, parce que quand on ouvre les corps, quand on fait des autopsies, on voit du lait répandu. En fait, c'est du pu. Et on pense que c'est le lait qui est rentré dans le corps qui a rendu la femme malade.
Parce qu'on est effectivement toujours dans une médecine hippocratique, galéniste,
une médecine des humeurs,
et on n'a pas encore effectivement transformé, comme au XIXe siècle, cette question médicale autour de la naissance, c'est ça?
Oui. C'est ça.
Et il y a aussi les hémorragies qui peuvent être extrêmement importantes.
Oui, les hémorragies du postpartum, c'est toujours d'ailleurs la chose redoutée dans les accouchements encore aujourd'hui en maternité. Hein.
Oui, parce que parfois aussi, les sages-femmes, entre guillemets, les matrones, peut-être, enlèvent le placenta, le font mal, enfin, il y a des risques comme ça.
Nathalie Sage-Pancher.
Effectivement, il y a des risques dès lors que l'accouchement semble tarder, que la présentation d'enfant n'est pas bonne, que l'enfant présente le bras ou une jambe, enfin, voilà. Le réflexe, surtout quand la femme souffre, quand la famille autour attend qu'il y ait un geste de fait, ça va être de tirer, effectivement, sur ce qui se présente. Donc, on passe les détails.
Il est 9h25, passons les
effectivement,
détails.
Au-delà, le risque de démorphologie hémorragie reste très fort jusqu'au moment où le placenta est complètement sorti. Et on a différentes techniques qui servent à essayer de réguler ces hémorragies. Alors, les techniques qui ne servent à rien du tout. J'ai en tête un exemple où la mère de l'accouchée veut à tout prix lui poser des orties sur le ventre en disant que pour elle, ça a fonctionné. Bon, ça ne fonctionne pas. Sa fille meurt quelques heures après. Mais c'est le recours à l'ergot de seigle. Et l'ergot de seigle, lui, s'il est administré en quantité raisonnable, peut effectivement réduire l'hémorragie, voire l'interrompre. Et il y a tout un débat jusqu'au 19e pour savoir si on autorise les sages-femmes à l'utiliser ou non.
Oui, parce que tout de même, vous êtes spécialiste de cette histoire de la naissance de ce métier de sage-femme, Nathalie Sage-Pranchère, mais... Pour qu'un métier naisse, il faut que on soit d'accord sur un minimum de gestes qui sont des gestes thérapeutiques en l'occurrence et d'accompagnement des mères. Comment cela se met-il en place? C'est-à-dire à partir de quel moment dit-on qu'il y a une sorte de corpus de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qui est dangereux, de ce qui ne l'est pas, et comment l'héritage de ces matrones d'avant cette existence de ce métier de sage-femme se fait -il par rapport à ce nouveau métier, cette réglementation que l'on veut justement pour pouvoir permettre d'avoir des enfants en bonne forme et des mères également en meilleure forme à la fin du XVIIIe siècle, Nathalie Sage-Pranchère?
Alors finalement, les gestes qui ne sont pas dangereux pour la mère, dès lors qu'on a de bonnes connaissances anatomiques, on les connaît très précocement dès l'époque moderne, on sait quels sont les gestes à ne pas faire. On ne tire pas sur le bras d'un enfant qui dépasse concrètement. Mais effectivement, la diffusion de ce savoir, elle va se faire à partir de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe. Et il ne faut surtout pas sous-estimer le fait qu'entre 1760 et même 1810-1820, ce sont des matrones qu'on va recycler d'une certaine manière, qu'on va former. Des femmes qui ont déjà fait des accouchements, à qui on fait confiance, parce que malgré tout, dans la plupart des cas, les accouchements se déroulent normalement et en fait, la matrone n'a qu'à récupérer l'enfant au moment où il arrive. Donc c'est pour le petit pourcentage des accouchements qui se déroulerait mal, où il faut savoir ce qu'il ne faut pas faire.
Oui, donc on est dans ce contexte de la fin du XVIIIe siècle où on voit la médecine progresser, l'État progresser également auprès des femmes. Comment se passe le conflit? Y a-t-il d'ailleurs conflit avec l'Église? Parce qu'évidemment, l'Église était généralement aussi très présente autour des futurs accouchés. Eh bien, est-ce qu'il y a entre l'État de la fin du XVIIIe siècle au moment de la Révolution ou juste après, par exemple, une tension entre cette puissance tutélaire qui était l'Église auparavant et cet État qui veut prendre en charge justement les nouvelles accouchées?
Fondamentalement, il n'y a pas de tension. Pour une bonne et simple raison, c'est que les prêtres eux-mêmes sont des acteurs très précoces de l'envoi de jeunes filles pour se former dans les cours d'accouchement. Dès lors que le curé finalement de la paroisse a pu choisir la jeune fille qui partait au cours, qui lui fait confiance, qui lui a fait son certificat de bonne vie et mort, finalement ça pose pas de problème. Et il n'y a pas d'opposition Église-État à ce moment-là. On va en trouver... plutôt à l'extrême fin du 19e siècle, début du 20e, dans un contexte où là, le curé perdant un petit peu la main sur le choix de l'élève sage-femme peut contester son droit à lui amener les enfants pour le baptême.
Petit enfant, quel que soit, fille ou fils, parfait le temps de tes 9 mois préfixe. Puis en ce monde entre en grande lumière, viens sans donner détresse coutumière à la mère humble en qui Dieu t'a fait naître. Puis d'un doux riz commence à la connaître. Après que fait lui aura connaissance, prend peu à peu nourriture et croissance. Tant qu'à demi commences à parler, et tout seul est en trépignant allé, sur les carreaux de ta maison prospère, au passe-temps de ta mère et ton père, qui de t'y voir un de ces jours prétendent, avec ton frère et ta sœur qui t'attendent. Viens voir de terre et de mer le grand tour, avec le ciel qui se courbe alentour. Viens voir ma te belle ornature, que chacun d'eux a reçu de nature. Je te dirai encore 100 000 choses qui sont en terre autour du ciel enclose, belles à l'œil et douces à penser. Mais j'aurais peur de ta mère offensée et de t'y voir et d'y penser. Et tu, prince, si grand désir qu'avant le terme vinsse, par quoi, enfant, quel que soit, fille ou fils, parfait le temps de tes 9 mois préfixe.
Paul de Rennes interprète ce morceau de Jean Français, un morceau de 1941, extrait de l'adolescence Clémentine sur un poème de Clément Marot. Ce morceau s'appelle « Avant naissance ». Alors justement, Emmanuel Berthiaud, tout de même, vous qui êtes spécialiste de cette grossesse, vous dites que autour de la future accouchée, il y a vraiment plein de gens qui se pressent, qui ont des conseils à donner, évidemment. Les mères, les tantes, la famille, mais plus largement, tout le monde lui donne des conseils, justement, pour préparer cette épreuve que va être l'accouchement. Est-ce qu'on peut retrouver en tant qu'historienne justement un tant soit peu cet univers de conseils autour de la future accouchée?
Oui, ils sont très importants. On en trouve beaucoup d'exemples dans les écrits privés où clairement la solidarité féminine a joué un rôle très important pendant la grossesse. Donc le lien privilégié mère-fille en particulier fait que l'essentiel des conseils se transmet par ce biais-là pendant la grossesse. Les femmes de la famille, les amis, les voisines. On a parfois des hommes aussi. J'ai eu la surprise de voir que finalement ça n'était pas qu'un univers féminin, mais que certains conjoints qui ne peuvent pas être là pendant la grossesse de leur femme, mais qui ont une idée sur la question, qui ont lu des livres, vont parfois aussi délivrer des conseils. Et puis après, on a évidemment tout le personnel médical éventuellement qui entoure certaines femmes enceintes, qui peut être amené aussi à délivrer des conseils. Ils sont parfois contradictoires.
Et cela, ça change entre cette fin du 18e dont on parle depuis le début de cette émission et le 19e siècle? Est-ce que ça évolue avec, par exemple, cette mise en avant et cette valorisation de la maternité que les historiens et historiennes ont découvert autour du 19e siècle, justement, plus forte encore?
La maternité est vraiment valorisée, en tout cas la grossesse comme une expérience qui nécessite des précautions, qui nécessite un encadrement particulier. Je n'ai pas observé de différence entre le 18 et le 19e siècle. C'est déjà vraiment un état... Qui justifie ces précautions. Le changement va venir de la place du personnel médical. C'est un suivi qui, en tout cas pour les élites, on a le médecin qui quand même, alors sans parler de suivi de grossesse parce que ça n'est pas encore le cas, mais qui quand même s'impose comme un personnage un petit peu incontournable. On va lui faire attester du diagnostic de grossesse, on va lui faire pratiquer parfois des saignées. Il va être quand même davantage présent dans l'entourage de la femme.
Séverine Attard.
Et donc pour encadrer cette professionnalisation des sages-femmes, peut-être Nathalie Sage-Pranchard, il y a à la fois des guides qui sont publiés, mais qui ne concernent pas d'ailleurs forcément que l'obstétrique, parce que là, on va le voir, la sage-femme, elle a aussi un rôle moral à tenir dans cette société du 19e. Et puis, il y a des lois aussi qui posent la question de la formation, de la nécessité d'obtenir un diplôme après avoir fait... un an, deux ans de formation, et qui concerne, vous le dites bien aussi, des femmes de conditions plutôt modestes. En fait, elles vont venir de ces milieux sociaux, les sages-femmes.
19 ventoses en 11.
Ouais. Voilà, 19 ventoses en 11, 10 mars 1803, c'est la loi qui fonde la réforme de l'enseignement de la médecine et de l'exercice de la médecine en France sous le consulat. C'est un texte qui, en fait, est l'aboutissement d'une quinzaine d'années de réflexion législative et qui fait la synthèse, finalement, des travaux révolutionnaires. Donc, l'obligation de formation, elle est quasiment évidente pour tout le monde. Elle est évidente pour tout le monde sous la Révolution. L'obligation d'avoir un diplôme, c'est ce qui vient, finalement, avec la loi et son corollaire, le fait qu'on ne peut pas exercer si on n'a pas ce diplôme. Ça ne veut pas dire que des gens n'exercent pas sans diplôme, mais en tout cas, officiellement, il faut un diplôme.
Il y a deux classes de sages-femmes à ce moment-là.
Oui, comme pour les médecins, où on avait médecin à l'échelle nationale, officier de santé à l'échelle départementale, on a des sages-femmes de première classe qui exercent pour toute la France et des sages-femmes de deuxième classe uniquement à l'échelle départementale. La différence fondamentale avec les médecins, c'est que au fond, elles ont les mêmes droits en termes de thérapeutiques. Elles font la même chose, qu'elles soient deuxième classe ou première classe. Alors, ces sages-femmes, elles sont tirées du peuple. C'est quelque chose qui revient de manière très régulière, parce qu'il y a l'idée que pour qu'elles suscitent la confiance dans les milieux populaires, à la campagne, il faut qu'elles viennent des mêmes milieux. Ce sont des filles de paysans, mais finalement moins que ce qu'on pourrait imaginer pour l'époque. Des filles d'artisans, des filles de petits commerçants, tout simplement parce qu'une fille de cordonnier, elle a plus de temps pour apprendre à lire et donc potentiellement pour devenir sage-femme. Et si elle doit avoir finalement un héritage, ça va être son travail qui va lui permettre d'avoir quelque chose à proposer ensuite et quelque chose avec quoi vivre surtout. Donc on a cette progression d'une formation qui va toucher près de 70 000 sages-femmes au cours du 19e siècle, ce qui est quand même assez considérable.
Et vous dites que c'est même la première profession médicale réglementée.
Oui, c'est la première. Alors, première profession féminine diplômée au sens strict, 1803. C'est l'autre profession qui est celle de médecin. Ce sont les deux professions médicales réglementées en 1803. Et elle va toujours être au nombre, et elle l'est toujours, des professions médicales en 1892, quand on réforme la loi de 1803. Donc, ces sages-femmes, elles sont formées dans des écoles. Il y en a une soixantaine qui s'ouvrent et parfois se ferment au cours du 19e siècle.
Et qui sont les enseignants, justement, Nathalie? Qui sont les enseignants?
Alors, on a en général un binôme avec un médecin.
qui va faire le cours théorique et il va être là deux fois par semaine pour faire deux heures de cours à chaque fois. Et sinon, on va avoir la sage-femme qui, elle, va répéter le cours théorique et qui va s'occuper de tout l'enseignement pratique. Donc très concrètement, 80% du temps, elles sont formées par une sage-femme. Et pour les 20% restants, la dimension théorique un peu plus prestigieuse, c'est le médecin.
Marie-France Morel.
Oui, je voulais dire quand même que c'est tout à fait exceptionnel, ce réseau d'écoles de formation des sages-femmes.
Exceptionnel dans le temps, exceptionnel dans l'espace, c'est-à-dire...
Dans l'espace, parce qu'il se trouve que j'ai travaillé sur les États-Unis. Bon, alors, c'est un petit peu décalé dans la chronologie, mais à partir de la fin du 19e siècle, les sages-femmes n'ont pas su se défendre. Il n'y a eu que des écoles privées, tenues par des sages-femmes souvent immigrées d'Allemagne, de Belgique, de Pays-Bas, donc bien formées d'ailleurs, qui ont ouvert des écoles à Chicago ailleurs, et, ou à New York, et elles ont petit à petit, ou Boston, elles ont été petit à petit, complètement, interdites de pratique par des obstétriciens qui voulaient en fait capter...
Prendre leur place d'une certaine
voilà,
façon.
Voilà, exactement. Et avec quand même, il faut le dire, le concours des femmes qui pensaient qu'elles seraient mieux soignées par un homme ayant fait des études longues qu'une sage-femme. En France, on a ce réseau de sages-femmes quand même qui est au départ départemental, mais il n'y a pas eu d'école dans chaque département, avec une école absolument prestigieuse à Paris qui s'appelle la maternité.
Et donc tout de même, Nathalie Sage-Panchère, ces sages-femmes du 19e siècle, elles sont bien formées, elles sont nombreuses, enfin relativement nombreuses sur le territoire, même si elles ne peuvent pas couvrir l'ensemble du territoire national, mais elles ont aussi, comme le disait tout à l'heure Séverine Yatin, des obligations, c'est-à-dire des obligations qui sont des obligations de pratique de leur métier, pourrait-on dire, mais aussi des obligations morales. Elles doivent dénoncer certains crimes ou certains délits autour de la maternité. Elles sont aussi des agents de surveillance de l'État. Et vous dites, ou ce n'est pas vous, mais une autre personne dit que ce sont des institutrices du système social de santé.
Oui, c'est Olivier Faure qui le dit, effectivement. Les sages-femmes, elles sont sous la coupe de l'État, de manière quasi directe.
Du ministère de l'Intérieur. Hein.
Voilà, jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est le ministère de l'Intérieur qui surveille leur formation. Et très concrètement, pendant tout le 19e, ce sont les préfets qui sont les directeurs nés des écoles de sages-femmes. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en occupent concrètement, mais en tout cas, ils sont à la tête, officiellement. Ces sages-femmes, on attend d'elles, d'une part, qu'elles fassent appliquer tout ce qui va relever de la déclaration des naissances. Et évidemment, tant qu'un enfant n'est pas déclaré, on peut le faire disparaître, que ce soit par l'infanticide ou par l'abandon. Donc, il y a une volonté de lutter contre l'abandon et l'infanticide, avec une méfiance persistante, on le voit à Paris dans les années 30, contre ces sages-femmes. 1837 en particulier, où il y a des échanges de courriers disant on veut pousser les sages-femmes à aider la politique de lutte contre l'abandon aux côtés de la municipalité, mais concrètement on leur fait pas confiance, donc c'est dans les lettres aux sages-femmes c'est la carotte, dans les lettres aux maires d'arrondissement c'est le bâton. Faites-leur bien comprendre qu'on sera sur leur dos si jamais elles aident à l'abandon. Au-delà, ces sages-femmes sont prises finalement entre deux feux, les exigences de l'État, qui veut en faire des surveillantes.
Elles ne sont pas pour autant des fonctionnaires, en l'occurrence.
Alors, ce ne sont pas des fonctionnaires.
Dans certains endroits, elles sont fonctionnarisées par des communes, dites-vous, en Alsace
ou ailleurs,
par exemple.
Effectivement, il y a des endroits où elles sont carrément payées par la commune, et puis au fur et à mesure du siècle, à partir de 1893 et la loi sur l'assistance médicale gratuite, elles seront rémunérées pour tous les accouchements qu'elles feront auprès des indigentes. Mais... la population les vit comme fonctionnarisées. Et l'administration les vit comme fonctionnarisées. J'ai un exemple dans l'Aube, la dame Janelle. Clairement, si elle refuse d'aller faire un accouchement d'indigente, alors qu'il y a 3 médecins par ailleurs dans le village, elle a le commissaire qui débarque et qui lui dit « Vous êtes obligé d'y aller ». Et quand elle demande à être payée, on lui répond « Vous gagnez suffisamment bien votre vie ». C'est pas la peine.
Alors, parce qu'elle explique justement, cette Madame Janet, là, que, quand vous en parlez, Nathalie Sage-Panchère, que certains abusent, c'est-à-dire qu'ils ont l'argent pour la payer, mais comme ils savent qu'elle est obligée de venir, ils ne la payent pas.
Donc,
elle porte réclamation.
Effectivement, elle le fait pendant... Elle le dit presque une vingtaine d'années. Elle va faire tous les accouchements qu'on lui demande, mais finalement, tout le village se fait accoucher gratis. Et elle finit par se plaindre au préfet. Alors, il est possible qu'elle en rajoute, évidemment. Elle finit par se plaindre au préfet. Et
on finit par lui dire, bon, écoutez, à l'avenir, vous aurez un petit défraiement, mais on ne tient pas vraiment compte du travail qu'elle a fait en amont.
Alors, il y a des endroits sur le territoire, parce que tout le territoire n'est pas uni, on l'a dit. Dans certains endroits, les matrones continuent pendant très longtemps à faire leur travail, parce qu'il n'y a pas suffisamment de sages-femmes dans ces endroits-là. Puis, il y a des exceptions. La Corse, par exemple.
Alors, la Corse, c'est un département, enfin, pour le coup, une île assez exceptionnelle. C'est-à-dire que, encore à la fin des années 1810, alors qu'officiellement, on doit déclarer uniquement les gens avec des diplômes, le préfet de Corse renvoie des listes de personnel médical avec des sages-femmes où il précise très clairement qu'elles n'ont pas été formées. Mais comme ça, ça lui permet d'en déclarer une vingtaine, une trentaine. Alors, dès lors qu'on lui dit, ben, désormais, vous ne renvoyez plus que celles qui ont été formées, il y en a quatre sur l'île. Donc, évidemment, en termes de suivi, on a un maintien de ces matrones, mais qui, pour certaines, ont eu une formation, même si elles n'ont pas été jusqu'au diplôme.
Alors, Emmanuel Berthiaud, cette évolution, pourrait-on dire, avec l'arrivée de cette nouvelle profession, change-t-elle quelque chose au cours du 19e siècle, puisque votre thèse sur le vécu de la grossesse et ses représentations court jusqu'au 19e siècle? Est-ce que vous voyez évoluer, justement, cette question de la grossesse en fonction de la professionnalisation, pourrait-on dire, accentuée des professions autour de la naissance?
Pas pour, en tout cas, ce qui est des sages-femmes qui, moi, dans les sources que j'ai pu explorer, n'intervient pas beaucoup dans la grossesse en tant que telle, dans le suivi de grossesse. C'est pas quelque chose qui est.
Non, mais savoir qu'on va peut-être être accouché par une sage-femme, est-ce que ça change ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire cette peur considérable qu'on induit à la naissance avec la possibilité d'en mourir, soit pour soi, soit pour son enfant?
Disons que moi, les sources sur lesquelles j'ai travaillé, les écrits du fort privé en particulier, émanant surtout de milieux relativement favorisés, ce qu'on voit surtout, c'est qu'en fait, les femmes de ces milieux-là sont déjà passées à l'accoucheur et ne se font plus accoucher par des sages-femmes dès le XVIIIe siècle. Donc moi, la sage-femme, je la vois très peu. C'est vraiment déjà des hommes qui s'occupent des femmes pendant leur grossesse et leur accouchement.
Et tout au long du XIXe siècle, ça sera le cas?
Oui, c'est vraiment, le médecin s'est vraiment imposé vraiment auprès des femmes. Il n'y a que quelques cas très particuliers où on voit des sages-femmes intervenir, mais clairement, pour moi, ça n'est pas quelqu'un qu'on voit régulièrement.
Ce qu'on n'a pas dit, on n'en a pas trop parlé, mais pour l'instant, on accouche en majorité chez soi. Hein, alors bon, que ça soit dans le milieu populaire ruraux ou alors un milieu plus bourgeois aristocratique. Alors la question de l'hôpital, en fait, ce sont les pauvresses, ce sont les filles mères qui vont accoucher à l'hôpital avec beaucoup de risques, en fait, beaucoup plus de risques. Je sais pas où Marie-France Morel, c'est à mourir presque l'hôpital, non?
Oui, ça fait peur d'ailleurs. Seules effectivement les filles mères ou les femmes très très pauvres ou les sans domicile fixe, on dirait aujourd'hui, vont accoucher à l'hôpital.
Oui, parce que le taux de prévalence des maladies est beaucoup plus important. Ces fièvres puerpérales, on ne sait pas comment elles se transmettent, donc on pense que c'est par l'air, puisqu'on est dans une médecine hippocratique. Eh bien, au bout du compte, on ne fait pas évidemment de en sorte qu'elles ne se transmettent pas de malade à malade, et on a des taux de mortalité qui sont absolument considérables quand une épidémie de fièvre puerpérale se développe dans un hôpital.
Oui, notamment à la maternité de Paris, qui est la maternité de Port-Royal, aujourd'hui, est toujours dans ce même lieu. En 1856, en mai 1856, il y a 32 accouchés et il y en a 30 qui meurent de fièvre puerpérale. Donc c'est une véritable épidémie contre laquelle le personnel était très très peu préparé à lutter.
Et pourtant, il y a certains médecins qui alerte, en Angleterre,
dès la fin du 18e siècle, parce que les épidémies de fièvre puerpérale, si on regarde dans l'histoire, il y en a qui sont référencées depuis le 17e siècle au moins, oui. Et donc c'est pas une nouveauté.
Mais ils sont incompris. Il y a vraiment cette, parce qu'ils commencent à penser qu'effectivement il faut
Oui, mais la contagion, ça a mis longtemps à être compris.
Mais certains,
par les personnels médicaux, oui. Oui, alors donc on cite l'exemple de Semmelweis à Vienne, qui avait observé que sur deux maternités, il y en avait une qui faisait des autopsies, où les étudiants en médecine faisaient à la fois les accouchements et les autopsies. Cette maternité avait des taux absolument désastreux.
Et tout compte fait, la femme qui aide, comme on l'appelait dans l'enquête de Minot, sur laquelle vous allez travailler bientôt, Séverine Attard, donc cette femme qui aide, elle aide les parturiantes, mais vous dites aussi qu'elle aide aussi la toilette des morts.
Oui, elle fait la toilette des morts.
On est au début et à la fin de la vie, quand on est au départ une matrone ou quelqu'un dans un village qui s'occupe de cela.
Mais apparemment, elle se lave les mains entre les deux opérations. Ce que ne faisaient pas les étudiants de Vienne dans le service que Semmelweis a observé. Et donc, il a regardé les taux de mortalité de la maternité où il n'y avait que des sages-femmes, sans autopsie, et les taux étaient absolument incomparables. Et la même chose, Tarny a fait la même chose à la maternité de Paris. Il a observé les taux donc dans sa maternité et puis des sages-femmes à domicile qui accouchaient, donc les femmes, soit chez elles les sages-femmes, soit dans les maisons ou les appartements des
femmes. Mais tout de même, on est dans le siècle de la statistique, où la statistique se développe de façon considérable, le 19e siècle, donc on doit pouvoir, à un moment ou à un autre, et pas simplement dans les enquêtes de Villermé, de tous ceux qui travaillent sur le social, pourrait-on dire, dans la société du 19e siècle, comprendre qu'il y a des endroits où la prévalence de la maladie est plus importante, qu'il faudrait peut-être pratiquer, on ne sait peut-être pas comment, mais une antisepsie, enfin l'antiseptique, etc.
Qu'il y a des endroits où la mortalité est beaucoup plus importante, ça on le comprend tellement bien qu'en 1858, il y a à l'Académie de médecine un débat qui envisage carrément de fermer les maternités. Mmh. Alors, je voudrais simplement faire une nuance entre le cas parisien et les cas provinciaux. Le cas parisien, effectivement, aboutit à des taux de mortalité considérables dans les mortalités parisiennes. Et il y a l'idée d'ailleurs à ce moment-là qu'on pourrait fermer les maternités, basculer toutes ces femmes chez des sages-femmes de ville. C'est pour ça qu'on crée ce qu'on appelle des sages-femmes agréées à partir de 1866, à l'issue d'ailleurs d'une enquête d'un nommé Léon Lefort qui passe dans toutes les maternités européennes et qui revient en disant bah, finalement la solution, ça serait peut-être justement de les mettre chez des sages-femmes de ville. En revanche, en province, là où on a des accouchements beaucoup moins fréquents, et tout bêtement, où on a le temps de se laver les mains et de changer les draps entre deux accouchements, je pense à la maternité de Tulle que j'avais étudiée il y a quelques années, on a des taux de mortalité infectieuse qui sont extrêmement bas. Les taux de mortalité sont liés au choc obstétrical, aux problèmes de présentation de l'enfant, mais pas du tout aux infections, parce qu'il y a un accouchement en moyenne tous les 3 jours.
Marie-France Morel, à partir de quel moment dans le 19e siècle on peut dire qu'il y a vraiment un saut dans la préservation de la vie de l'enfant et de la mère? Est-ce qu'on peut dire que c'est les années 1860, 1870?
1870, c'est Pasteur, en fait. C'est la découverte de la contagion des germes. Pasteur découvre le streptocoque qui est responsable de la fièvre puerpérale. Et donc, il est assez vite entendu par les médecins des maternités, quand même. Oui. Même s'il n'a pas toujours été compris par des médecins de campagne, en particulier.
Nathalie Sage-Penchère.
Oui, et au-delà, même si on a un peu de mal à le calculer, des travaux de Scarlett Beauvallet en particulier, et qui sont encore en cours, puisqu'elle les poursuit, ont montré que dès lors qu'on a des sages-femmes formées, même si en tant que telle, il y a toujours une mortalité infectieuse qui peut perdurer, on a de toute façon une baisse de la mortalité maternelle. Elle l'avait montré pour le tournant du 18e-19e siècle, et moi j'ai pu le confirmer à partir des données de Jean-Pierre Bardet sur la Vendée, pour le 19e siècle. On a une baisse avant même Pasteur. Tout simplement parce qu'on sait comment réagir face aux accouchements qui tournent mal.
Emmanuel Berthiaud, est-ce que sur la longue durée du 18e et du 19e siècle, vous voyez dans cette perception de la grossesse évoluer ce que vous avez noté pour le 18e et en début de cette émission, cette peur de la mort? Est-ce que vous voyez des femmes qui, parce qu'elles voient autour d'elles peut-être moins de femmes mourir, au bout du compte, être plus confiante dans cette épreuve qui est la grossesse et l'accouchement qui va suivre?
On a quand même un ton qui est moins alarmiste, effectivement, dans les écrits intimes de la fin du 19e siècle. Bon, les femmes ont aussi moins d'enfants, c'est-à-dire qu'on est vraiment rentré dans une régulation des naissances qui fait que, sans parler de naissances choisies, mais le fait qu'on soit confronté moins régulièrement à cette épreuve-là, qu'on ait quand même un cadre un petit peu rassurant et quand même des gestes désormais qui sauvent pendant l'accouchement, ça permet de rassurer un petit peu les mères. Après, ça reste quand même toujours une épreuve assez périlleuse et on peut pas dire que les mentalités soient profondément transformées. Il faut attendre le 20e siècle vraiment pour que on puisse, moins appréhender l'expérience de la grossesse et de l'accouchement.
Et pourtant, il y a déjà quelques accouchements sous opium ou chloroforme, enfin la question de la douleur. On essaye, enfin certaines femmes, oui, plutôt justement du milieu aristocratique bourgeois.
Mais ça se développe pas tellement en France. C'est-à-dire que autant il y a des expériences qui sont faites en Angleterre et où la pratique du chloroforme pour atténuer les douleurs de fin d'accouchement se pratique de manière assez courante. Par contre, en France, pour des raisons culturelles, religieuses ou autres, on considère qu'il faut souffrir en accouchant et en tout cas, clairement, on ne cherche pas vraiment à atténuer cette douleur.
Et vous qui avez travaillé sur cette question de la fabrique du féminin et du masculin, c'est le sous-titre du Rose et le Bleu que vous avez publié la semaine prochaine avec Scarlett Beauvallet aux éditions Belin. Sur cette, pour dire, changement, est-ce qu'il y a un changement de la perception de ce qu'est le féminin au cours de ce 19e siècle lié justement à cette perception de la grossesse et de l'accouchement ou pas du tout?
C'est plutôt la continuité qui l'emporte. C'est vraiment une expérience constitutive du féminin de passer par la grossesse, l'accouchement, de souffrir pour ça. Ça valorise aussi l'expérience maternelle. Il faut attendre vraiment le fait que la grossesse, la maternité soit choisie, qu'elle se fasse de manière beaucoup plus sécurisée à partir en gros du milieu du 20e siècle pour que véritablement les mentalités, je trouve, se transforment.
Marie-France Morel.
Oui, je crois qu'on n'a pas parlé de l'arrivée de l'anesthésie obstétricale à partir de 1847 en Écosse, puisque c'est à Édimbourg que Simpson, le premier, fait un accouchement sous chloroforme. C'est ce qu'on va appeler l'accouchement à la reine, quand la reine Victoria demandera pour sa 7e ou 8e grossesse. Ça va être très répandu, effectivement, aux États-Unis et en Angleterre, beaucoup moins en France. Mais ce que je voulais dire, c'est que les femmes des milieux aisés qu'étudie Emmanuel vont aussi retrouver un rôle extrêmement fort juste après l'accouchement dans l'observation de leur bébé, de leur enfant. Et c'est ce que Catherine Rollet a étudié avec le développement des carnets de santé. On croit que c'est des choses du 20e siècle, pas du tout. Les premiers carnets de santé, ils existent à partir du milieu du 19e siècle.
Mais ça veut dire que ces femmes ne font plus ce qu'elles faisaient au 18e siècle, c'est-à-dire qu'elles confiaient forcément l'enfant à des nourrices qui allaient les nourrir. Là, il y a un changement justement dans ce rapport avec le nouveau-né.
Très souvent, la nourrice est à domicile quand la mère n'allaite pas. Et il y a cette maxime tout à fait extraordinaire, la mère constate, le médecin interprète.
C'est ce qui est. Donc on a un nouveau regard sur le nourrisson, pourriez-vous dire, à ce moment-là, dans ces classes favorisées de la société.
Et avec la mère qui joue un rôle essentiel, mais derrière le médecin. Oui, quand même.
Ouais. Et donc, elle doit noter des symptômes, elle doit repérer
conseils qu'on lui donne. On diffuse dans la presse et dans les librairies des petits carnets de santé. Le plus célèbre est celui du docteur Fonsagrive en 1869, livret maternel pour prendre des notes sur la santé des enfants. Et où donc il y a une page pour l'accouchement où là elle doit noter les circonstances, le poids de naissance, etc. Et on va commencer à noter le poids de l'enfant. Je pense que ça c'est une chose dans cette statistique qui se développe. Vous l'avez noté au 19e siècle, eh bien l'enfant. Et la mère aussi, on a oublié de dire qu'on a mesuré les bassins aussi très tôt, dès la fin du 19e siècle, pour prévoir éventuellement les complications de l'accouchement. Donc cette période statistique, elle est partout.
Nathalie Sage-Poncher.
Oui, ce qu'on évoquait à l'instant sur la question de la douleur, moi j'avais été très frappée dans les registres d'accouchés, en particulier pour le coup en Corrèze, sur 40-50 ans de registre, j'ai un cas. Tous les cas pathologiques sont notés. Et au milieu, il y a un cas qui est noté accouché sans douleur. Et c'était tellement exceptionnel que la sage-femme a ressenti besoin de le noter. Mmh. Au-delà, ce que j'avais aussi pu noter, c'est qu'on trouve quand même dans les pharmacies d'école ou de maternité du laudanum. Donc, il y a des petites tentatives dans la deuxième moitié du 19e siècle d'avoir recours à quelque chose qui pourrait apaiser un petit peu la douleur.
Soulager
un petit peu, même si c'est pas aussi finalement efficace ni systématique que ce qu'on peut avoir en Angleterre. Pour rebondir sur ce que disait à l'instant Marie-France Morel, la formation à la puériculture et à un minimum de pédiatrie des sages-femmes, c'est quelque chose qu'on va trouver très tôt dans le 19e siècle et qui se développe au fur et à mesure du siècle.
siècle. On a vraiment l'idée qu'il faut qu'elles soient présentes pendant les premières semaines et elles sont
capables.
Elles ont
même une sorte de responsabilité sur ces premières semaines.
En
leur confinant seulement le soin de suivre la grossesse et l'accouchement, mais on leur confie aussi le soin de suivre les suites de cet accouchement.
Tout à fait. Elles sont celles qui doivent pouvoir donner des conseils sur l'habillement, sur la nourriture, faire changer les habitudes des familles, en particulier sur la question de l'emmaillotement. Elles vont être celles aussi qui vont procéder à la vaccination de l'enfant. Et ce sont les sages-femmes qui majoritairement vaccinent en France au 19e.
Et ça, c'est l'État, Nathalie Sage-Planchère, qui va encadrer tout ça et demander justement qu'on s'intéresse aussi, qu'on surveille le bébé, l'enfant.
Oui, tout à fait. C'est la loi de 1874 qui va exiger la surveillance des enfants.
La loi Roussel, hein,
c'est ça ? Voilà, la loi Roussel pour les enfants de moins de 2 ans. Et on va essayer de faire en sorte que les sages-femmes soient les intermédiaires de l'application de cette loi.
Emmanuel Berthiaud.
Moi, il me semble aussi que pour revenir sur cette idée d'importance de la statistique, c'est que et de l'importance aussi de l'hôpital, ce qui se constate à partir des années 1870-1880, c'est que ces femmes pauvres, ces femmes indigentes, ces filles mères qui viennent accoucher à l'hôpital vont être aussi un peu pas des cobayes, mais ça va servir un petit peu de lieu d'observation, d'expérimentation. Et je pense en particulier aux travaux d'un obstétricien qui a dirigé la maternité Baudeloc, qui est Adolphe Pinard, qui va constater que finalement ces filles mères qui viennent accoucher à l'hôpital et qui ont pu bénéficier d'un certain repos parce qu'elles étaient accueillies dans des refuges pour filles mères à la fin de leur grossesse, elles donnaient naissance à des enfants qui étaient d'un meilleur poids, elles accouchaient moins prématurément. Et donc c'est imposé petit à petit l'idée aussi que peut-être il faudrait un repos en fin de grossesse, l'idée d'un congé de maternité va petit à petit faire son chemin. Et au départ, c'est ces constatations sur ces femmes pauvres qui vont petit à petit après permettre de faire des progrès.
Et ça, c'est cette Troisième République sociale, avec les lois sociales de la fin du 19e siècle, qui vont aider à cela, justement, Marie-France
Moret. Oui, et puis il va y avoir surtout l'effort des premiers accoucheurs des hôpitaux, qui est un nouveau cadre qui va être mis en place en 1882 et qui vont 92 qui vont aussi développer, comme ces accoucheurs n'ont pas droit à la gynécologie puisque alors que les sages-femmes vont s'occuper de gynécologie, la gynécologie va rester le domaine des chasse-gardée des chirurgiens, eh bien ils vont se spécialiser soit en surveillance de la grossesse, ça c'est Pinard, soit en surveillance de la santé du nourrisson, et ça c'est Budin qui va créer à la maternité la première consultation de nourrisson en 1892, en même temps que Vario qui va créer une consultation à Belleville, et en même temps que Dufour qui en 1894 va créer la goutte de lait de Fécamp.
À Belleville d'abord.
Non, la goutte de lait c'est à Fécamp.
Ah oui.
C'est Dufour qui a inventé l'expression qui va d'ailleurs être répandue ensuite dans internationalement, oui.
Oui, puisque on en parlait hier également dans les colonies, on va en installer en Algérie en particulier de ces substituts à la goutte de lait donc créés du côté développé à côté de Belleville et à Fécamp. Merci à vous Marie-France Morel, merci à vous Nathalie Sage-Planchère ainsi qu'à Emmanuel Berthiaud. On a compris en vous écoutant combien ce siècle entre 1750 et 1900, ce siècle et demi, avait été important pour la santé des femmes et des enfants, et cette question de grossesse, de maternité et d'accouchement qui nous intéressait dans le domaine de la santé publique. Merci Séverine Yattard. On peut dire que vous allez publier, Emmanuel Berthiaud, avec Scarlett Beauvallet, Le Rose et le Bleu, La fabrique du féminin et du masculin, 5 siècles d'histoire chez Belin, c'est la semaine prochaine. Et puis que vous avez publié en 2013, Enceinte, une histoire de la grossesse entre art et société. On attend avec impatience, Nathalie Sage-Planchère, le travail que vous allez publier aux presses universitaires François Rabelais à l'automne prochain. Ça s'appellera L'école des sages-femmes. Et on peut lire dès à présent de Marie-France Morel, Accueillir le nouveau-né d'hier à aujourd'hui, publié chez RS.
Je voudrais juste dire qu'il y a un très bel article dans cet ouvrage collectif sur les prématurés au 19e siècle de Catherine Rollet. Reprend toute l'origine des couveuses, des premières couveuses et leur perfectionnement.
Et merci beaucoup Marie-France Morel. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Yanis Djoudad était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. demain. Eh bien demain, table ronde fiction dans la Fabrique de l'Histoire. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes les émissions de la Fabrique de l'Histoire sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez les écouter, puis vous pouvez également, en allant sur ce site, vous inscrire pour le forum qui aura lieu samedi prochain, samedi 12 mars à la Sorbonne. L'année vue par l'histoire, 4 tables rondes et également un grand entretien avec l'historien Sanjay Subramaniam. C'est à la Sorbonne de 10h à 18h, samedi 12. Allez donc sur le site de France Culture pour vous y inscrire.